Accent d'Europe, Catherine Roland.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
Bonjour à tous, une récolte de vin en Suède, carrément des vignes bientôt en Belgique ou en Russie. 2018, année faste pour les viticulteurs britanniques. Voilà les premiers effets du changement climatique et qui inquiètent évidemment les traditionnels producteurs de vin que sont les Français, les Espagnols ou les Italiens. L'été particulièrement chaud et ensoleillé a permis des récoltes records chez nos voisins d'Outre-Manche, avec 2500 hectares de vignes et 3,86 millions de bouteilles produites l'an dernier. L'industrie du vin pétillant, pour le moment le fameux sparkling wine, est en train de sortir du bois en Grande-Bretagne. Le réchauffement climatique lui donne un petit coup de pouce. Reportage dans le vignoble de Greyfriars, dans la région du Surrey, au sud de l'Angleterre, Marie Billon.
Welcome to Greyfriars. My name is Mike Wagstaff.
Mike est devenu propriétaire de Greyfriars en 2010. Après avoir travaillé dans le pétrole pendant de nombreuses années, il a décidé, avec son épouse, de changer de paysage. Aujourd'hui, il gère un vignoble de 16 hectares avec plus de 60 000 pieds de vigne.
Nous avons 8 variétés de pétillants. Côté vin tranquille, nous avons deux blancs, Pinot Gris et Sauvignon Blanc, et un rosé.
Nous nous dirigeons vers les vignes de Chardonnay que Mike a plantées en 2011. Les vendanges ont continué en octobre cette année. Une dizaine de travailleurs saisonniers sont en train de ramasser les dernières grappes avant que le froid ne s'installe.
Maintenant que les vendanges sont finies, je crois qu'on peut dire sans problème que cette année a été superbe. La météo a été presque parfaite. La chaleur et la sécheresse des sols permettent aux vignes de produire beaucoup de raisins en bonne santé. D'ordinaire, nous avons des problèmes avec les moisissures à cause du temps humide que nous avons ici, mais les températures nous ont permis de laisser les fruits gagner en maturité sur les vignes. Je n'ai d'ailleurs pas vu un taux de maturité comme celui-ci ici ces 8 dernières années. Là, c'est l'une de nos vignes de Chardonnay. Il y a au moins 10 ou 12 très belles grappes. En 2017, nous avions produit 125 tonnes et cette année, j'estime que nous serons à 180 tonnes de fruits. L'an dernier, nous avons produit 70 000 bouteilles de vin effervescent et 5 000 de vin tranquille. Cette année, je pense qu'on va augmenter notre production de 40%. C'est super.
La production est si bonne que Mike a vendu une partie de ses grappes à un autre viticulteur. Il n'a pas la capacité de presser autant de raisins. Mais évidemment, il n'y a pas que la quantité qui compte, l'important c'est la qualité. Et pour ça, Mike a embauché l'an dernier un maître de chai, chef de production français. Loïc, 27 ans, chouchoute les bouteilles dans la salle de vinification.
Donc cette année, c'est une très bonne année, avec de très belles maturités, avec des 12% d'alcool pour des vins tranquille, c'est assez rare d'avoir ça, je pense, en Angleterre. On serait plutôt à autour de 10-5 maximum, notamment pour le Chardonnay, le Pinot Noir, même le Sauvignon, on a du Sauvignon Blanc ici. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on arrive cette année à avoir des niveaux de maturité presque parfaits, comparables en tout cas à des niveaux en France.
De bonnes nouvelles, oui, mais, dit le maître de chai, car le climat anglais classique convient très bien au vin effervescent. Ça n'est pas pour rien que la Grande-Bretagne produit plus de 2 millions de bouteilles par an, 66% de la production totale de vin en Angleterre et au Pays de Galles. Alors ce temps de Côte d'Azur a aussi ses inconvénients.
Des acides qui restent assez bas, moyennement bas. Ici, le problème en Angleterre, c'est que les acidités vont être très élevées. Parce qu'on fait du sparkling, on fait de la méthode champenoise, donc il faut qu'il y ait une pointe d'acidité pour les vins effervescents. Donc on veut garder cette acidité. Le problème maintenant, c'est qu'on se retrouve cette année avec des acidités qui sont quasiment trop basses. Donc il va peut-être falloir acidifier des vins, ce que je n'ai jamais vu pour l'Angleterre peut-être.
Là, on est en train de nettoyer et étiqueter le vin.
Le vignoble n'en est pas encore au point de se lancer dans le vin rouge, qui est encore plus dépendant du temps beau et chaud. Mais Guillaume, le sommelier, français lui aussi, espère bien que cette année va faire beaucoup pour la promotion du vin anglais.
Oui, parce qu'il y a une croissance qui est disproportionnée par rapport à ce qu'on connaît du côté de la France, l'Italie, l'Espagne. Donc, boom, se justifie. La demande est aussi en extrême croissance. Il y a beaucoup plus de gens en Angleterre et au Royaume-Uni qui s'intéressent au vin. Et ce serait mérité, bien sûr. Ouais. D'un point de vue qualitatif, on est sur des produits qui sont très, très bons. Enfin, il y a des dégustations à l'aveugle chaque année. Maintenant, c'est anodin. Quand on parle de dégustation à l'aveugle avec des vins anglais qui battent les Français, c'est anodin. On n'en parle même plus. Ça arrive tous les ans.
Le Brexit pourrait aussi donner un coup de pouce aux vins anglais, qui coûtent plus cher que les continentaux à cause des récoltes habituellement réduites et du coût de production comparativement élevé. Importer coûte déjà plus cher avec la chute de la livre, et si à cela s'ajoutent des droits de douane, les bouteilles provenant du continent pourraient bien devenir plus coûteuses que les anglaises.
Mère Paris, face belle bouline, de Vigaro, de Sedani. Hey, Morière, Cove, Dani, Dani.
Si en Grande-Bretagne, le réchauffement climatique favorise de plus en plus la culture de la vigne et ses débouchés malgré les inconnus du Brexit, les plus anciennes vignes du monde, elles, sont menacées. Nous partons ainsi en Arménie où le domaine viticole vieux de 6000 ans avait été jusque-là épargné par le phylloxéra, cette maladie causée par un puceron bien connu et craint des viticulteurs français, notamment depuis le 19e siècle. Bonjour Régis Janté.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans le Caucase et vous revenez justement d'Arménie qui vit donc sous cette menace d'une attaque de phylloxéra.
Oui, ce qui veut dire, soulignons-le, que c'est un des très rares pays au monde à avoir des vignobles qui n'ont pas encore été ravagés par ces insectes verts invisibles à l'œil nu. En fait, deux régions d'Arménie ont été contaminées il y a un siècle et l'on y fait ce que l'on fait partout ailleurs, on plante des porte-greffes américains. Mais plusieurs régions d'Arménie, comme celle d'Armavir, de la vallée de l'Ararat ou de Vayotsdor, étaient jusqu'à présent indemnes. Et il y a 10 ans, hélas, on s'est aperçu qu'elles commençaient à être contaminées.
Régis, vous avez rencontré à Yerevan Arthur Mikoyan. C'est en fait le chef de l'inspection phytosanitaire du service de sécurité alimentaire de l'Arménie et il explique bien la situation.
Le phylloxéra pour le moment se trouve sous contrôle. Nous surveillons strictement les terrains contaminés afin que la maladie ne se propage pas. Seuls une centaine d'hectares sont affectés dans la région d'Armavir et 20 ou 30 hectares dans la vallée de l'Ararat. Mais le risque est toujours présent.
Finalement, il n'a pas l'air très inquiet, ce responsable arménien.
Oui, il y a deux raisons à cela. La première est que le phylloxéra progresse très lentement en Arménie. On ne sait pas bien pourquoi. Peut-être est-ce dû au climat, très froid l'hiver, moins 25 degrés dans la vallée de l'Ararat, et très chaud l'été. La deuxième, c'est que le pouvoir arménien et l'administration ont d'abord nié la réalité du phénomène. Il faut savoir qu'en Arménie, on cultive de très anciennes variétés qui pourraient disparaître, et on n'a pas du tout envie de cela. Et c'est un peu ce que m'a fait comprendre Arman Manoukian, chef vigneron de l'entreprise Wineworks, formé à Montpellier, dans le sud de la France, et qui, en recevant sa vendange, parle d'un cépage qui lui est cher, autochtone, l'Arénie, peut-être parmi les plus anciens du monde.
Ça, c'est le roi des cépages arméniens, le fameux Areni. C'est un vin rouge. Ça donne les vins corsés, structurés, aromatiques. Ce qui est caractéristique pour Areni, c'est son fruité.
Est-ce que cela veut dire que les Arméniens craignent la disparition des plus vieux cépages ?
Oui, parce que le vin fait partie intégrante de la culture arménienne. Le Caucase étant, semble-t-il, le berceau de la viticulture, on en a retrouvé des traces vieilles de plus de 8000 ans. Si jamais le phylloxéra se répand, les antiques cépages arméniens risquent l'extinction au moment où la production du vin est relancée en Arménie maintenant. Pendant la période soviétique, on ne produisait que du brandy qu'on appelait le cognac arménien.
Alors Régis, que fait le gouvernement pour contrer la maladie ?
Eh bien, il tente de mettre en place une stratégie qui vient d'être rédigée par la Fondation de la Vigne et du Vin, agence placée sous le ministère de l'Agriculture, qu'il étudie actuellement. Elle consiste à se préparer en cas d'expansion subite de la maladie. Elle comprend deux piliers importants, notamment. L'un est de mettre en place des structures qui prépareront suffisamment de porte-greffes américains au cas où il faudrait replanter la plupart des 15 000 hectares de vignes arméniennes. Le second pilier est de sauvegarder, dans des terrains protégés, la plus plupart des cépages autochtones, comme cela, même s'il fallait tout replanter sur des porte-greffes, la partie greffée, elle, serait bien de variété locale.
Régis Janté, notre correspondant dans le Caucase, manifestement séduit par ces vins venus du fond des âges.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach.
Et du vin, ils en ont bu en sillonnant les routes alsaciennes dans l'est de la France. 20 000 personnes à bicyclette, adeptes du vélo gourmand et de ses pauses dans les fermes de la région. Cette année, pour la première fois, le circuit emmenait les participants de l'autre côté du Rhin avec des ravitaillements dans des villages allemands. Le but étant d'inciter les habitants de chaque côté de la frontière à se rencontrer autour d'un événement festif tout en valorisant le terroir local. Maxime Nouche y était.
Ça y est, c'est parti. Des milliers de participants viennent de s'élancer depuis le petit village de Herbsheim. Tout de suite, on retrouve Patricia dans le peloton. Pour elle, le vélo gourmand, c'est ça.
C'est le côté franco-allemand. Donc, c'est faire du vélo et bien avec les citoyens allemands. Ça permet une relation amicale.
C'est précisément le sens qu'en donne Laurence Muller-Braun, vice-présidente du conseil départemental du Bas-Rhin.
Notre espace de vie est transfrontalier. Notre culture est transfrontalière. Notre nature est transfrontalière. On a des éléments très très semblables et ça paraît évident. Si on peut construire un événement ensemble, eh bien il a encore plus de dimensions et plus de symbolique.
Le vélo gourmand, c'est aussi prendre soin de son palais. À 11h dans le village de Wittenheim, les premiers cyclistes arrivent et ça tombe bien, les sapeurs-pompiers du village leur ont préparé des tartes flambées. Elles sortent juste du four. Et elles ont beaucoup de succès.
On en partage une à quatre, hein. C'est pas beaucoup finalement, de part par personne, ça nous fait l'apéro en fait. On a décidé de s'arrêter à chaque village, hein. C'est pour ça. On a trouvé la formule hyper sympa à vélo, en plus il fait beau. Puis le fait d'avoir des petits trucs à grignoter un petit peu tout le long, ça motive grave.
Les producteurs locaux en profitent aussi pour valoriser leurs produits. À Neunkirch, par exemple, Nicolas est maraîcher. Il valorise ses légumes d'une manière plutôt originale, en les sculptant avec une espèce de forêt en bois. Et il apprend en plus aux enfants à faire des sifflets avec des carottes.
Alors on transmet en fait les jeux qu'on faisait avec nos grands-parents. Quand ma grand-mère, elle préparait de la soupe, eh bien pour nous intéresser aux légumes, etc., eh bien, elle nous faisait fabriquer des petits bonhommes et surtout des sifflets avec des carottes, avec des pommes de terre.
Justement, Charlotte en profite pour faire sa pause déjeuner et déguster les premières soupes de potiron de la saison. Elle habite en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière.
Tout est très bien organisé. Les routes sont fermées à la circulation, les paysages sont magnifiques, il y a partout quelque chose à manger et c'est très important. Un événement transfrontalier comme celui-là, c'est un signe très positif dans une Europe où l'ouverture des frontières est de plus en plus remise en cause.
Après le repas, direction l'Allemagne. Sur le trajet, il n'y a pas de pont pour traverser le Rhin, mais un bateau sur lequel embarquent des centaines de vélos. Une fois sur la rive d'en face, il y a environ 3 km jusqu'au premier village allemand, Kappel-Graffenhausen. Certains participants n'iront pas plus loin en Allemagne, hein, les jambes sont déjà lourdes, mais peu importe, la journée est déjà réussie.
Franchement, journée top, tout ce qui est culinaire et tout, nickel quoi. À refaire.
Au top, ouais, c'est super.
Et comme je connais le côté allemand, ça m'a surtout intéressé de découvrir de nouveaux coins en Alsace.
En tout, 200 bénévoles ont participé à l'organisation de ce premier vélo gourmand transfrontalier.
C'était il y a un an et demi maintenant, les Ukrainiens ravis et soulagés obtenaient enfin une libéralisation du régime des visas Schengen. En clair, les citoyens n'avaient plus besoin de visa pour voyager dans l'espace des 26 pays européens pendant 3 mois. Sauf que depuis cette décision, la situation aux frontières terrestres s'est compliquée. Il faut parfois plus de 15 heures pour passer de l'Ukraine à la Pologne. Sébastien Gobert est à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Alors Sébastien, pourquoi la situation a ainsi empiré ?
De mémoire, les passages de frontières entre l'Ukraine et les pays de l'Union européenne ont toujours été une épreuve de patience. À cause des questions de contrebande, de corruption, de contrôle de l'immigration, mais aussi pour de simples questions de logistique. Tout cela prend beaucoup de temps. Mais ce n'est pas systématique. La situation dans les aéroports est assez fluide et traverser la frontière en train se fait sans trop de complications. Ce sont les points de passage routiers qui sont devenus un enfer le long des 1390 km de frontière avec la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et en particulier la Pologne. Ce qui se passe depuis un an, c'est d'abord et avant tout une conséquence paradoxale de la libéralisation du régime de visa Schengen que vous mentionnez. Les voyageurs n'ont plus besoin de visa, mais doivent quand même avoir tous leurs documents en règle, c'est-à-dire un passeport biométrique et des relevés de compte bancaire pour prouver qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins. La vérification de ces documents se fait maintenant au poste frontière quand les autorités le demandent. Et ça, ça peut prendre du temps.
Oui, c'est d'autant plus vrai, Sébastien, que de plus en plus d'Ukrainiens se présentent désormais au poste frontière. On parle d'ailleurs d'un million d'entre eux qui sont partis travailler dans l'Union européenne, notamment en Pologne, et ça fait beaucoup.
Oui, dans le contexte de crise économique et financière en Ukraine, les candidats au départ se sont multipliés. La plupart profitent de la libéralisation du régime du visa pour chercher un emploi et régulariser leur situation après. La Pologne attire beaucoup. Et ça explique en partie que les gardes-frontières polonais aient renforcé les contrôles pour lutter contre l'immigration illégale. Le renforcement de ces contrôles, ça vise aussi à lutter contre la contrebande qui fait vivre des milliers de personnes d'un côté et de l'autre de la frontière. Il n'y a que 9 points de passage routier entre l'Ukraine et la Pologne et les gardes-frontières sont souvent débordés, les contrôles s'éternisent et pour les particuliers qui veulent simplement voyager en tant que touristes, c'est particulièrement frustrant.
Le ministre des Affaires étrangères, Pavlo Klimkin, a dénoncé cette aggravation de la situation assez récemment. Est-ce que cela peut vraiment changer quelque chose ?
La solution la plus efficace à court terme, ce serait d'ouvrir de nouveaux postes frontières. Mais les relations politiques sont tendues entre Kiev, Varsovie et Budapest, et aucun projet de construction n'est à l'ordre du jour. De manière générale, on peut prévoir que la situation va durer dans le temps. Les difficultés d'Ukraine ne semblent pas être sur le point de s'apaiser et les Ukrainiens vont probablement devoir continuer de tenter leur chance ailleurs, même si cela prend 5, 10 ou 15 heures d'attente aux frontières.
Sébastien Gobert, notre correspondant en Ukraine. Et nous prenons pour terminer la direction de Budapest pour visiter la villa George Rath qui était fermée depuis 4 ans. Ce petit musée niché dans un hôtel particulier a été complètement restauré. Il vient de rouvrir au public avec une exposition permanente sur l'art nouveau en Europe. Florence Labruyère.
Située dans un quartier arboré de Budapest, la villa a appartenu au début du XXe siècle à George Rath, un grand amateur d'art nouveau. Elle appartient aujourd'hui au musée des arts décoratifs qui y expose les plus belles pièces de sa collection. La nouvelle exposition permanente présente l'art nouveau dans 4 pays. France, Royaume-Uni, Autriche et Hongrie. Dans le salon français, les meubles portent la signature des célèbres décorateurs Louis Majorelle et Émile Gallet. Des chaises finement stylisées en bois de palissandre côtoient une coiffeuse raffinée, rehaussée de bronze doré. L'art nouveau version britannique s'inspire, lui, du Moyen-Âge. Les meubles sont plus massifs et décorés d'ajouts en métal. Ils sont aussi très fonctionnels, comme ce buffet de salle à manger équipé d'un éclairage interne. On passe ensuite dans les salons autrichiens, où l'art nouveau joue avec la géométrie. Des motifs en forme de cercle, de carré et de spirale décorent les tapis et les meubles. L'art nouveau viennois combine la rigidité des formes avec le raffinement des détails. Les meubles sont en bois d'acajou ou de citronnier. La dernière partie de l'exposition est consacrée à l'art nouveau en Hongrie, un art où les formes strictes disparaissent pour laisser la place à des thèmes inspirés de la nature. Des tiges et des corolles de fleurs sont sculptées sur les dossiers des chaises. Il y a des vases aux formes ondulantes et des verres qui semblent avoir été soufflés par le vent. L'exposition se veut interactive. La villa organise des visites thématiques et des ateliers pour enfants. Certains après-midi, on peut même y prendre le thé tout en écoutant une conférence sur l'art nouveau.
Accent d'Europe, c'est fini. Jusqu'à demain, la réalisation est mise en onde. Il y avait bien sûr Françoise Grelot et vous pouvez nous retrouver sur notre site rfi.fr et bien évidemment sur la page Facebook.